France Musique.
France Musique.
Dominique Jameux nous a quittés le 2 juillet. Cette rediffusion est un hommage à la sensibilité et à l'intelligence d'un homme rare qui nous manquera. Prima la musica.
Par Stéphane Goldet.
Aujourd'hui, ce sera un auteur, Dominique Jameux. Certains d'entre vous, j'en suis bien certaine, se souviennent de sa voix. Ce sera un auteur parce que un livre, Chopin ou la fureur de soi, ce livre ultra personnel, va être le fil conducteur de toute la programmation de Prima la Musica. Mes choix discographiques seront pour l'essentiel, mais pas en totalité, les siens. Nelson Gurner aujourd'hui, Akiko, Ebi, et puis Thierry de Brunhoff demain. Et puis, aujourd'hui, il y aura également Ido Barshay, que j'espère que je vous ferai découvrir et aimer, si vous ne le connaissez pas déjà. Les mots prononcés dans cette émission seront quasiment tous emprunté à ce livre si attachant. Le programme aujourd'hui, c'est l'Andante Spianato et la Grande Polonaise opus 22, les études opus 10 et quelques mazurkas. L'Andante Spianato et la Grande Polonaise brillante, je cède là la parole à Dominique Jameux. Andante Spianato et Grande Polonaise brillante, ou alliage d'un chant bellinien calme et d'un morceau de haute et plaisante virtuosité pianistique, le bel canto pianistique sous deux espèces. L'Andante et donc spianato, poursuit Dominique Jameux, calme et sans fioriture. Une sorte de plein chant pianistique. Coïncidence, c'est justement en 1833 que Dom Prosper Guéranger, après avoir rétabli l'ordre des bénédictins supprimé à la Révolution, en réinstalle à Solène une communauté. L'abbaye, construite en 1837, deviendra le centre de la restauration du chant grégorien, ou plein chant. C'est-à-dire spianato. Spianato en italien, c'est une parenthèse, veut dire niveler, aplani. Spianato ou plein chant. Mais le style brillant auquel émarge sans contredit la polonaise qui s'y enchaîne directement, opus 22, donne surtout l'occasion de revenir sur le bel canto pyrotechnique. C'est bien lui qui assume le versant virtuose de l'opéra italien, les roulades, les écarts, les cadences. Les cadences virtuoses, les trilles, les ornementations rapides, c'est lui. Il n'est jusqu'à la gradation expressive de l'air chanté qui ne s'y retrouve dans cette polonaise. Récitatif, arioso, chant orné, cabalette et coda qui enlève le morceau.
Thank you.
En concert au Wigmore Hall de Londres, sur ce beau piano du Wigmore Hall, le 1er octobre 2009, Nelson Görner jouait ainsi l'Andante Pianato et la Grande Polonaise opus 22 de Frédéric Chopin, et il enchaînait avec les 12 études de l'opus 10 que nous allons entendre maintenant, non sans que je vous ai lu bien sûr les quelques lignes, enfin quelques-unes des lignes que Dominique Jameux, dans son Chopin ou la Fureur de Soie, tout récemment paru chez Buchet-Chastel, ligne que Dominique Jameux consacre à ses études de l'opus 10. Son petit chapitre s'appelle « Le nouveau piano, les études de l'opus 10 », qui est en fait, pour Dominique Jameux, le grand opus 1 de Chopin, qui a été commencé à Varsovie et achevé à Paris. Il y aura, écrit Dominique Jameux, par la suite, le nouveau roman, les nouveaux philosophes, la nouvelle cuisine, la nouvelle pornographie. Mais entre 1830 et 1833, Chopin invente le nouveau piano. Il en est tout à fait conscient. Depuis une trentaine d'années, la dispute clavecin-pianoforte a été réglée au profit de celui-ci, puis le pianoforte a abandonné sa désinence. Des théories de pianistes-compositeurs lui ont consacré des méthodes au piano, dans lesquelles ils explorent, consciencieusement, les mille choses trappes de la mécanique du jeu pianistique. Parmi eux, des musiciens que Chopin estime, Cramer, Hummel, Czerny et surtout Clementi. Si judicieuses que soient les études de Clementi, Chopin sent toutefois que son piano est autre chose. En cette phase d'apprentissage de l'étranger, d'une nouvelle expressivité, de la découverte de sa nouvelle patrie, d'un milieu inconnu, de sa profession de pianiste, Chopin décide d'écrire deux cahiers d'études pour l'instrument, 2 x 12. Impossible de ne pas penser à ses autres études célèbres dont il fait son pain quotidien. Le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Bach ? Ah, mais le pari est autre, poursuit Dominique Jameux. Il s'agit d'abord d'explorer les possibilités techniques du nouvel instrument dans un souci poétique ignoré par les études de ses devanciers. C'est la compénétration intime de ces deux données qui signale et signe la naissance du véritable piano. Autant dire qu'on ne peut passer rapidement, on peut passer rapidement sur l'aspect technique de ces 24 poèmes. Car il s'agit quand même d'études. Chacune pose un problème particulier, et d'une manière particulière à Chopin. Comme me le faisait remarquer Nelson Görner, écrit Dominique Jameux, qui maîtrise le sujet, la difficulté extrême de ces assez courts morceaux, 3 ou 4 pages, réside dans le caractère systématique d'une seule difficulté abordée. Ce sont des études monotechniques. Mais cette difficulté n'est jamais lâchée et se voit travailler jusqu'à la dernière mesure sans répit. Ce qui exige du pianiste non seulement habileté et brio, mais endurance, dans une position de la main souvent inconfortable. Les pianistes s'accordent pour trouver les études de Chopin beaucoup plus difficiles que celles de Liszt. Liszt à qui elles sont dédiées. Voici ces 12 études de l'opus 10 de Frédéric Chopin dans ce même concert du 1er octobre 2009 au Wigmore Hall de Londres, sous les doigts de Nelson Görner. Thank you.
Thank you.
enregistré au Wigmore Hall de Londres le 1er octobre 2009. C'était en concert Nelson Gurner dans les 12 études de l'Opus 10 de Frédéric Chopin. Nous sommes ensemble pour évoquer, pour feuilleter ensemble le livre que Dominique Jameux consacre à Chopin, qui est paru ce mois-ci, enfin le mois dernier en fait, Chopin ou la fureur de soi. Dans ce livre, Dominique Jameux distingue 5 cimes, donc, et parmi ces cimes, les études de l'Opus 10, dans cette œuvre où, selon le mot de Sanson-François, cette œuvre de Chopin, comme le cochon, tout est bon. Il distingue donc 5 cimes, dont ces études de l'Opus 10, dont il rappelle d'ailleurs fort judicieusement que jamais Chopin n'avait pensé les transformer en études de concert. Il les a composées de manière très éparpillée, et de son temps, on n'aurait jamais eu l'idée de jouer ça en concert, comme on le fait maintenant tout à fait communément. 5 cimes. Donc, la semaine prochaine, ce sera les préludes et la barcarolle. 5 cimes, et il choisit de nous présenter 7 interprètes selon son cœur. Parmi eux, Nelson Gurner, et dans les mazurkas, ou plus exactement dans la mazurka opus 50 numéro 3 que vous allez maintenant entendre, qui est la mazurka de Dinu Lipati, je fais une petite infidélité à Dominique Jameux et vous propose d'entendre cette mazurka par un pianiste israélien, Ido Barshai. Je rappelle que Chopin a écrit 60 mazurkas. Ido Barshai en a sélectionné 30 et les a enregistrés il y a quelques années. Il avait 35 ans au moment de cet enregistrement. Voici ce qu'Ido Barshai dit des mazurkas en général. Pour moi, les mazurkas de Chopin sont écrites dans une forme qui en effet intègre le mieux ce qu'il y a de plus polonais chez Chopin, avec ce côté aristocratique, fin et raffiné, typiquement français, et ceci d'une manière qui révèle la profondeur et la sincérité de son art. En paraphrasant un auteur, je dirais que les mazurkas représentent la Pologne telle que Chopin la rêvait dans les salons parisiens de Louis-Philippe. Chopin, le bas de son cœur, enfin le bas de son corps, je dirais jusqu'au cœur, en Pologne, et au-dessus, en France. C'était la Mazurka opus 50 numéro 3 de Frédéric Chopin sous les doigts du pianiste israélien Ido Barshai. Une dernière Mazurka dans notre programme sous les doigts d'Ido Barshai, l'opus 30 numéro 3. Si je devais lui donner un titre, je dirais « L'homme et son double ». C'était la Mazurka opus 30, numéro 3 de Frédéric Chopin sous les doigts d'Ido Barshai, pour terminer la première de nos 5 émissions consacrées au livre de Dominique Jameux, Chopin ou la fleur de soie, paru chez Buchet-Chastel. Demain, ce sera Akiko Ebi dans les préludes et Thierry de Brunhoff dans la barcarolle. Je voudrais remercier Adelino Mello, Sophie Saliomari, Annick Champagne, la chargée de production de cette émission Véronique Cardilès et sa chargée de réalisation Françoise Cordet.
France Musique.